France Inter.
Mais d'abord, Claude, vous nous parlez non pas d'un cancer, mais d'une chute.
La chute d'un champion cycliste, c'était 2 ans avant ma naissance, il se nommait Roger Rivière. Il était de Saint-Étienne et il porte pour moi éternellement le vertige des vies perdues. Car Roger Rivière, grand pistard devenu routier, recordman de l'heure, qui chuta dans la descente du col du Père Juret, dans le Tour 1960 qu'il voulait arracher à l'Italien Nencini, aurait dû devenir l'autre Jacques Anquetil. Les deux hommes se craignaient, se détestaient, se ressemblaient, jusque dans leur manière d'assumer la face noire du métier. Quand on ramassa Rivière, les vertèbres brisées, sa carrière finie à 24 ans, on trouva dans son maillot un cachet de palfium, un antidouleur qui protégeait son effort, mais qui avait amoindri ses réflexes et qui sans doute l'avait perdu. Le palfium qui resta sa drogue ensuite et qui le tua à 40 ans en 1976. Roger Rivière, le Stéphanois, mourut un 1er avril au lendemain de la victoire des Verts, 1-0 contre le PSV Eindhoven en demi-finale de cette Coupe d'Europe qu'il perdrait à Glasgow. Il est des drames qui disent l'exactitude de leur époque.
Et celle de Rivière est revenu vous hanter.
Car, et je touche du bois, puisque nous sommes en plein Paris-Roubaix, le cyclisme est entré dans une nouvelle fatalité, et ce printemps de chute qui ont meurtri Van Aert, Roglic, Evenepoel, Vingegaard, nul ne peut plus l'ignorer. Mais en réalité, nous le savions déjà en juin dernier, quand Gino Meder est mort au Tour de Suisse, sorti de la route à 100 km/h. Et nous en aurons d'autres, des morts ou des vies détruites, si nous ne sauvons pas le cyclisme de sa logique aussi destructrice que celle qui emporta Rivière ou foudroya Tom Simpson quelques années plus tard sur le Mont Ventoux. Dans les années 60, le doping, comme on disait, c'était l'excès de jeunes gens dévorés de vie. Nous eûmes ensuite les années EPO, le sang trafiqué, les cœurs de champions qui lâchaient en entraînement, l'irréalité du règne de Lance Armstrong. Nous vivons désormais une autre irréalité. Elle est un cauchemar de technologie, de vélos de carbone trop parfaits, trop puissants, des développements jamais vus, des freins à disque qui sont comme des suicides collectifs, tant leur efficacité pousse au risque grisant. Elle est un cauchemar de vitesse jamais vue, de peloton en train d'enfer, de cyclistes guidés à l'oreillette, hypnotisés par les capteurs de puissance, fixés à leur machine, coupés des autres, coupés d'eux-mêmes, et soudain, une fausse route, un échec, une distraction, le réel cogne, vous avez cité Lacan tout à l'heure. Des sages, Marc Madiot, Romain Bardet, nous alertent sur ce que devient leur sport. Nous avons failli perdre Alaphilippe, Vingegaard n'est pas passé loin, il faudrait alors ralentir et renverser la marche du temps, mais comment? Comment peut-on protéger des champions de leur propre force?
Mais quand même, les cyclistes sont mieux protégés qu'à l'époque de Rivière.
Oui, car évidemment, le casque a remplacé les vieilles casquettes. Mais il faudrait, je l'ai lu aussi, imaginer maintenant des maillots airbag. À quoi allons-nous ressembler? Et puis, cette histoire de casque, c'est aussi une tragédie. Le casque est devenu obligatoire après la chute mortelle dans Paris-Nice du Kazakh Andrei Kivilev, il y a 21 ans. Sauf qu'on a oublié que Kivilev était tombé parce qu'il était en train de régler son oreillette, ce qui l'avait distrait de sa course. Il est mort autant de l'absence de casque que de cette technologie qui perdure aujourd'hui. J'ai retrouvé dans mes archives un article du journal belge Le Soir, qui en 2003 suivait Cofidis, la formation de Kivilev. La veille de l'accident, un des coureurs avait interpellé son directeur sportif. Il disait « C'est trop, on reçoit tous les mêmes consignes en même temps et quand en plus vous avez l'hélico de la télé, vous n'entendez plus rien, c'est comme ça qu'il y a des chutes, il faut supprimer cette oreillette et imposer le port du casque. » Ce coureur, prophète, s'appelait Philippe Gaumont. Il avait du coffre et des excès, il savait tout du vélo, mais aussi se dopait, il l'avoua, il en fit un livre. En 2001, il s'était fracassé les os dans Paris-Roubaix, dans cette tranchée d'Arenberg que l'on a édulcorée cette année avec une chicane. Et comme Roger Rivière, il est mort à 40 ans.
L'Esprit Sport sur France Inter.